Ok, on va commencer. J'ai d'autres directives. On priera pour Samantha. Alléluia. Ah, vous êtes dans un lieu où Jésus règne. Jésus règne dans nos cœurs. Mais vous savez, Jésus choisit aussi des endroits. La Bible déclare. Il faut pas que nous soyons naïfs dans le sens que parfois, c'est biblique, la Bible dit que Dieu n'habite pas des maisons faites de main d'homme. Ce n'est pas un lieu qui abrite la présence de Dieu. Vous comprenez ça? L'église, ce n'est pas des bâtiments. Mais il y a une réalité. La Bible dit aussi que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Dieu est là.
Amen.
Ah. La Bible dit que Dieu n'habite pas des maisons faites de main d'homme. Mais la même Bible dit que si tu trouves dans un lieu deux ou trois personnes qui se rassemblent pour adorer et pour reconnaître Dieu, il y a une présence manifeste dans ce lieu-là. Donc, dans ce lieu, c'est un lieu où tout peut arriver. Parce que ma foi, ta foi, la foi de quelques-uns dans ce lieu peut faire en sorte que ta condition qui était jusqu'à présent inchangée peut par un tout à coup divin changer. Parce que la présence de Dieu est là. Et quand Dieu est là, Dieu veut libérer, il veut complètement nous restaurer, Dieu veut nous réparer. Là où la vie nous brise, et là où parfois la maladie, les circonstances nous brisent, Dieu désire nous réparer. Et ce matin, j'ai une pensée simple, mais j'aimerais juste l'introduire par cette parole et un encouragement, m'adresser à plusieurs qui croient en fait que nous devons d'abord changer pour que Dieu s'intéresse à nous. Et parfois, nous avons du mal à nous approcher de Dieu parce que nous disons, je dois d'abord changer avant que Dieu m'accepte. Je dois d'abord être prêt. Et pour même des chrétiens qui ont fait la paix, on va dire, avec Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, parfois, nous disons et nous pensons que pour vivre une certaine dimension supérieure, pour vivre autre chose, pour vivre peut-être une relation plus forte avec Dieu, bien sûr qu'il y a des choses à mettre en place, mais parfois nous connectons l'amour qu'a Dieu pour nous à ce que nous devons faire. Et je suis là pour vous dire que ce n'est pas le cas. Parce que pourquoi nous raisonnons comme ça? Parce que l'amour dans ce monde est connecté forcément à ce qu'on apprécie chez l'autre. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je n'aime pas ceci, 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 c'est chez toi, mais je t'aime. » Généralement, quand tu dis « j'aime quelque chose », quand tu dis que tu aimes quelqu'un, automatiquement, tu connectes à l'amour des choses que tu apprécies chez cette personne. Et bizarrement, nous fonctionnons comme ça avec Dieu. Et nous pensons même que Dieu fonctionne comme ça avec nous. Si Dieu nous aime, c'est forcément parce qu'il doit apprécier des choses chez nous. Et s'il n'y a pas des choses appréciables chez nous, Dieu ne peut pas nous aimer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est un véritable problème. Parce que, on peut le dire, oui, c'est quoi?
C'est un mensonge.
Parce que son amour n'est pas connecté à ce que tu fais. Écoute bien, c'est très, très important. L'amour de Dieu n'est jamais connecté à ce que tu fais. L'amour de Dieu n'est même pas connecté à qui tu es dans un certain temps. L'amour de Dieu est connecté à qui Dieu est. La Bible dit, Dieu est amour. Point.
Amen.
Et je suis là juste pour te dire, Dieu est amour. Et arrête de connecter l'amour de Dieu à ce que tu fais ou à ce que tu feras. Dieu est amour. La Bible dit, Romains 5, verset 8, « Mais Dieu ». Moi, j'aime ces expressions-là, « Mais Dieu ». Déjà, quand je dis « Mais Dieu », ça veut dire que mais l'homme, c'est pas pareil. Peut-être mon meilleur ami, c'est pas pareil. Peut-être mon passé ne me dit pas ça. Peut-être même mes parents ne me disent pas ça. Peut-être même il y a une certaine relation avec mon épouse. Peut-être mon épouse ne me dit pas ça. Mais Dieu, a dit à la personne à côté, mais Dieu, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais Dieu prouve son amour. Ah, waouh. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Dieu t'a aimé avant quoi que ce soit. C'est très, 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 très important. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vais illustrer ça et je pensais à l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez Nicky Cruz, certains vous connaissez certainement. Nicky Cruz, à la fin des années 50, et précisément même 59, un jeune prédicateur, jeune, je ne sais pas si jeune que ça, mais en tout cas, un prédicateur à ce moment-là, était beaucoup plus jeune, du nom de David Wilkerson, hein, pour ceux qui connaissent, David Wilkerson, et il habitait de Phillipsburg, quelque chose comme ça, en Pennsylvanie, et en pleine campagne, ému de compassion, Dieu lui met à cœur de quitter sa campagne, sa petite ville, pour aller, je crois, c'est à Brooklyn, où il y a la drogue, il y a toutes sortes de gangs, il y a toutes sortes de violences. Il doit quitter sa ville natale pour aller dans cette partie où il y a toutes sortes de violences par amour pour le service de Dieu, pour la mission, pour la vocation de Dieu. Et à Brooklyn, il va rencontrer donc différents gangs et différentes personnes, chefs de gang, dont Nicky Cruz. Et il parle de Dieu, prend contact avec lui. Et lorsqu'il le rencontre, Nicky Cruz, ça m'a frappé, il dit, vieil homme, c'est pour ça que je dis qu'il n'était pas si jeune, en tout cas pour Nicky Cruz, il va dire à David Wilkerson, vieil homme, si tu t'approches encore de moi, je vais te tuer. Menacé par le poignard, et pour certains vous connaissez le titre du livre, La Croix et le Poignard, donc menaçant avec un poignard, Nicky Cruz dit à celui qui a quitté le village, la campagne, pour manifester juste l'amour de Dieu, Nicky Cruz lui dit, si tu t'approches encore de moi, je vais te tuer, vieil homme. Et là, David Wilkerson le regarde et dit, écoute-moi, tu peux me découper en 1000 morceaux. Chacun de mes morceaux criera encore, je t'aime. Comment il peut faire cette déclaration? Mais il aime quoi chez David Wilkerson et chez Nicky Cruz? Qu'est-ce que David Wilkerson aime chez Nicky Cruz? C'est un chef de gang qui a fait toutes sortes de mauvaises choses. Et il est loin de Dieu, il est complètement perdu, il est en colère et certainement meurtrier. Mais David Wilkerson, rempli de l'amour de Dieu, lui dit que même si tu me découpes en petits morceaux, chacun de mes morceaux va crier « Je t'aime ». Et ça me fait penser à ce texte. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, quelques temps plus tard, Nicky Cruz, bien sûr, cette parole bouleverse, et va décider d'aller à une réunion comme cette réunion. Et Nicky Cruz va écouter David Wilkerson prêcher la croix. Et il va comprendre pourquoi David Wilkerson a dit ça. Et il va donner sa vie à Jésus. Et va passer des ténèbres réellement à la lumière. Et sa vie va complètement changer, bouleverser, va ramener d'autres personnes à Jésus-Christ. Et c'est l'histoire, en fait, d'un homme, qui est complètement perdu et qui découvre l'amour de Dieu. Mais ça peut être ton histoire, ça peut être l'histoire de plusieurs au milieu de vous. Mais en fait, j'ai choisi cette histoire et cette illustration juste pour dire que Nicky Cruz n'avait rien d'aimable. Et en fait, et Nicky Cruz représente ce verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque Nicky Cruz était encore loin de Dieu, lorsque Nicky Cruz, on va le voir, n'avait même pas encore de foi, Dieu lui a manifesté son amour. Mais nous voulons croire, nous. Et l'ennemi veut nous faire croire. Quand je parle de l'ennemi, il y a Satan qui est là, qui veut nous faire croire qu'avant de nous approcher de Dieu, on doit tellement changer des choses. Avant de croire que ta vie sera meilleure, écoute bien, avant de croire que ta vie sera meilleure, Satan veut te faire croire que tu dois devenir meilleur par toi-même. Quand tu seras meilleur par toi-même, ta vie sera meilleure, tes relations seront meilleures, ta situation sera meilleure. Et plein Plein de personnes essaient de changer leur caractère par leur propre force. Plein de personnes essaient d'arrêter telle chose, telle autre par leur propre force pour avoir une meilleure vie en devenant une meilleure personne. Et on est en quête tout le temps de l'amour. Mais pourtant, on découvre qu'avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui s'est engagé le premier. Et nous sommes dans ce mois d'engagement où nous parlons avec cette thématique tout ce mois dans l'église. Oui, on vous parle de vous engager. Mais on ne peut pas s'engager véritablement avec Dieu si on ne prend pas conscience que Dieu, lui, s'est engagé premièrement envers nous. Amen, amen. Et il s'est engagé envers nous, pas parce que on est comme moi des beaux gosses.
C'est vrai, ouais.
Et parfois, je me regarde, vous le savez. J'ai dit, waouh, peut-être c'est pour ça que Dieu t'aime, Romaric. Parce que tu es magnifique. Mais non! Pas que! Pas du tout. Tu n'as pas à gagner l'amour de Dieu. Tu l'as juste à l'accueillir. Tu n'as pas à gagner. Tu n'as pas à prouver à Dieu que tu vas arriver à devenir une meilleure personne. Et si tu es venu écouter l'évangile, et si tu es venu écouter la parole de Dieu, en te disant, j'aimerais être une meilleure personne, et ensuite ouvrir mon cœur à Dieu, tu te trompes, je t'arrête de suite. Mensonge, comme on l'a dit. Dieu t'accepte tel que tu es, mais tu dois d'abord juste reconnaître que Dieu t'aime, point. C'est compliqué, hein, parfois, pour nous. On aimerait bien qu'il y ait autre chose, parce qu'on veut mériter quelque chose. Parce qu'on aimerait dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On aimerait sortir notre CV de bonnes œuvres, notre CV de bon caractère. On aimerait même sortir, s'il y avait des croyants qui pourraient être ingénieux, pour sortir un label qualité chrétien. Ils le feraient. ISO 2000, je ne sais pas combien, pour dire maintenant, je peux m'approcher de Dieu. Maintenant, je peux vivre un ciel ouvert. Maintenant, je mérite le réveil. Maintenant, je mérite l'amour de... Non, 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 non. Ça peut paraître fou et la croix, c'est une folie. Le message de l'évangile est une folie. Ça peut paraître fou, complètement déraisonnable. Mais pourtant, Dieu nous aime, peu importe ce que nous faisons. C'est d'abord ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous changer. L'amour de Dieu est déconnecté de ce que nous faisons. Mais par contre, lorsque nous découvrons l'amour de Dieu, nous avons une puissance surnaturelle pour devenir autre personne. Mais je ne deviens pas une autre personne pour que Dieu m'aime. Alors, quelle preuve ai-je que Dieu m'aime vraiment? J'aimerais vous donner trois preuves. Trois preuves. Ce sera facile à retenir. Que Dieu vous aime vraiment, que Dieu m'aime vraiment. La première preuve, c'est que Dieu s'est engagé d'aimer avant que je choisisse de croire. Ça paraît simple, mais c'est une vérité profonde et qui nous bouleverse. Dieu prouve son amour, je vous relis, envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire nous ne croyons même pas en son amour, en sa fidélité, en sa bonté, mais Dieu a décidé de nous, il prouve. C'est-à-dire que le mot ici l'a prouvé, il a mis toutes sortes de choses ensemble pour dire, je vais te montrer que je t'aime. C'est ça prouver. Prouver, c'est rassembler, dans l'étymologie grecque, c'est rassembler toutes sortes d'éléments pour dire, je t'aime. La croix fait partie de ces éléments. Je prends ton passé, je prends ta douleur, je prends ton péché, je prends tout ce que tu as mal fait dans ta vie, je prends tout ça. Vous savez, avant de le mettre de loin de nous, Dieu les rassemble. Il y a des choses dont nous avons honte, comme la Bible dit. Dieu n'a même pas honte du pire péché que nous avons fait. Ton pire péché ne permet pas à Dieu de te renier. Ton pire péché ne pousse pas Dieu de te renier, de te rejeter. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est antérieur à ta foi. très important de comprendre ça. L'amour de Dieu est antérieur à ta foi. Ta foi est indispensable pour aller plus loin. Mais l'amour de Dieu est antérieur à ta foi. Avant même que tu dises « je crois », Dieu t'a dit « je t'aime ». Dieu t'a fait une déclaration d'amour. Et donc aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure, même si ta foi elle est petite, et parfois nous connectons notre foi à l'amour de Dieu. C'est-à-dire, si ta foi est petite, l'amour de Dieu est grand. Oh, mensonge! Oui, oui, tu peux le dire. Ta foi peut être petite. Tu déplaces les montagnes par ta petite foi parce que l'amour de Dieu est tellement grand que ça couvre ta petite foi. Ouais, je vais le redire. Ouais. L'amour de Dieu t'avait déjà localisé, même lorsque tu t'es encore perdu. C'est... L'amour de Dieu te voyait déjà. Même lorsque tu te disais, mais est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? L'amour de Dieu croyait déjà en toi, même lorsque tu ne croyais pas en lui. C'est-à-dire, je suis là juste pour te dire, je priais, je dis, Seigneur, aide-moi à libérer ce message. Et moi-même, je t'ai touché, je dis, Seigneur, c'est vrai, wow, je prends conscience. Tu m'aimes à ce point. Tu m'aimes au point que même lorsque je ne croyais pas en moi, toi, tu croyais déjà en moi. Et tu es rentré peut-être en ce lieu avec une pensée sur toi-même, une idée sur toi-même complètement fausse et complètement... Ça te conduit à toutes sortes de mauvaises pensées. Mais Dieu a toutes sortes de bonnes pensées pour toi. Dieu te dit « je t'aime », Dieu te dit « je crois en toi », Dieu te dit « waouh, tu es une créature extraordinaire ». Je dis « mais Seigneur, j'ai fait ça ». Mais même pas, tu n'imagines même pas les bonnes choses que Dieu pense à ton sujet. Parce que toi, tu connectes l'amour de Dieu à ce que tu as fait ou à ce que tu n'arrives pas à faire. Avant d'aller plus loin, réalise Dieu t'aime, point. Abandonne ton perfectionnisme spirituel à vouloir prouver que tu dois mériter et que tu, l'amour de Dieu parce que tu as fait ça, 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 ça. Abandonne ça. La première chose pratique que je te laisse dans ce message, je choisis d'abandonner. Je choisis d'abandonner mon perfectionnisme spirituel. Vous savez, cette idée, et ça serait tellement bien que même lorsque je discute avec certains chrétiens, je dis, ah, toi tu as fait ça, mais moi, ah, j'ai jamais fait ça. Ah, par la grâce de Dieu, hein. Tu dis, non, en fait, par la grâce de Dieu, j'ai entendu, c'est pas par la grâce de Dieu, j'ai entendu par tes mérites à toi. Tu veux mériter quelque chose. Et je vais te choquer. Dieu, il y a autre chose. Bien sûr, il faut se préserver. Il faut, en s'appuyant sur l'amour de Dieu. Mais je vais peut-être te choquer. Mais l'amour de Dieu est choquant. Dieu ne t'aime pas plus que le pire des gangsters. Il y a des mots qui sont... violent quand on les emploie. Et je vais juste préparer ton cœur. Je vais employer un mot violent parce que c'est ça l'amour de Dieu. Dieu t'aime autant que le pire des abuseurs. Dieu t'aime autant. Et alors, donc, arrête de vouloir gagner son amour par ce que tu vas faire. Tu ne dois pas t'arranger pour être aimé. Tu es déjà aimé par celui qui s'engage à t'arranger. Est-ce que tu comprends ça? Dieu, il s'est engagé à t'améliorer, plus qu'à t'améliorer, à te réparer. C'est complètement une folie de te dire que je dois être réparé pour aimer celui qui doit te réparer. En fait, tu ne te répareras jamais tout seul. Donc tu ne seras jamais prête à recevoir l'amour de Dieu parce que tu as reçu ce mensonge que pour t'approcher de Dieu, il faut être nickel. Mais c'est Dieu qui te rend nickel. Comment tu vas t'approcher de Dieu en étant nickel puisque c'est Dieu qui t'aime et qui s'engage. Et il te dit, viens tel que tu es et tu repartiras pas tel que tu es venu.
Yes.
Dieu ne fuit pas la saleté, hein. Il te rend propre. Hein? Dieu ne fuit pas la saleté. Il y a des chrétiens qui fuient la saleté. Je ne parle pas de pratiquer toutes sortes de mauvaises choses. Non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle à ceux qui se disent, je suis trop sale pour m'approcher de Dieu. Et j'ai envie de te dire, bienvenue, Dieu aime te rendre propre. Vous comprenez? Dieu n'aime pas la saleté. Dieu n'aime pas vivre dans la saleté. Mais il aime accueillir la saleté. Parce qu'il y a en lui l'ADN de la propreté. C'est-à-dire que Dieu sait que si tu t'approches de lui d'un cœur sincère, tu es propre. Comment peut-il haïr la saleté? Il n'aime pas ce que tu fais, mais il sait que si tu t'approches avec ce que tu fais, il est capable de te changer. Il s'est engagé à te transformer. Il s'est engagé à te réparer. Il s'est engagé à te rendre propre. Il s'est engagé. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai un problème avec les chrétiens qui jugent et qui collent une étiquette sur les uns et les autres. Toi, tu le vois sale, mais il n'est plus sale. Il n'est plus sale. Dieu l'a lavé. En fait, quand tu vois quelqu'un sale alors que Dieu l'a lavé, tu dis que le sang de Jésus n'est pas assez capable de le purifier. C'est terrible. Dieu transforme celui qui s'approche sale. Dieu n'attend pas que tu te relèves pour te sauver. Il vient dans ta chute pour te relever. Ne cherche pas à te relever par tes propres forces. Il y a des hommes dans la Bible, les premiers, ils ont essayé en se couvrant avec des feuilles de figues, je crois. Enfin, en tout cas, c'est des feuilles. De vigne, je ne sais plus. C'est des feuilles. Des feuilles des arbres. Ça, je sais. Ouais. Mais Dieu a donné un meilleur habit. Je parle à celui qui... Tu regardes peut-être ton caractère, tu regardes peut-être... Tu es en lutte avec quelque chose, tu es en lutte avec tes émotions, tu es en lutte avec... ce que tu n'arrives pas à dominer, tu dis, oh, tu regardes d'autres qui semblent être meilleurs, avoir un meilleur caractère, qui semblent avoir un passé peut-être moins douloureux. Et tu crois que Dieu aime plus. Mensonge. Parce que si Dieu s'est engagé à t'aimer avant de croire, il s'est engagé à t'aimer peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es. Donc il faut déjà que tu refuses, et tu dis, je refuse ce mensonge que la société ou que mon histoire semble me mettre dans ma tête. Je refuse. Dieu m'aime. Et quelqu'un a besoin d'entendre. Dieu l'aime. La personne peut-être que tu n'aimes pas parce qu'il n'a pas fait, oh, parce que tu n'aimes pas ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Je suis désolé, je ne devrais même pas être désolé. Mais parce que Dieu l'aime, indépendamment de ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Dieu n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Dieu n'est toujours pas d'accord, n'est pas toujours d'accord avec ce que nous faisons. Mais ça ne touche en rien son amour. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est-à-dire, dans mon ADN, là, je crois, de souvenir, je ne sais pas si il y a des scientifiques, il y a au moins X et Y, hein, c'est ça. Les femmes, c'est XX, je crois. C'est ça, merci. Il y a un connaisseur. Il y a un connaisseur de XX. Et les hommes, je crois, c'est XY. Dit que, je peux vous assurer, hein, franchement, je ne suis pas médecin, mais je peux vous assurer, vous prenez mon sang, avant une grosse bêtise, il y a XY. Je ne veux pas le faire, mais imaginons, je fasse une grosse bêtise, un gros péché, vous prenez mon sang, c'est toujours XY. L'ADN n'est pas modifié par ce que je fais. Pourquoi nous pensons que l'ADN de Dieu est modifié par ce que nous faisons? C'est-à-dire que quand tu décomposes l'ADN divin, c'est amour, 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 amour. Première preuve, donc je l'ai dit, Dieu m'aime avant que je croie. Deuxième preuve, Dieu m'aime au point d'avoir donné son fils. C'est un message pour certains qu'on connaît. Il y a des chrétiens, le premier, moi-même, j'ai besoin de le réentendre. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi, pour ta destinée. Donc tu crois que parce que ton passé n'est pas top, tu crois que ton passé est supérieur à la croix? Tu crois que parce que certaines personnes t'ont dit telle chose, que ça affecte la croix? Mais la croix, c'est la signature de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quand j'essaie de me souvenir de tout ce qui peut me freiner, Dieu a signé réussite à la croix. Dieu a signé victoire. Dieu a signé conquérant. Dieu a signé HFP. Ah! Il a signé. C'est signé, c'est tamponné, c'est comme ça. Pour ceux qui disent, c'est quoi HFP? Ah voilà, regarde-moi, tu sauras. Dieu nous aime. Et dans la déclaration d'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé, il a donné. Dieu a aimé, il n'a pas attendu. Dieu a aimé, il n'a pas dit d'abord repens-toi. Dieu a aimé, il n'a pas dit sois juste. Dieu a aimé, il n'a pas dit va d'abord réparer. Dieu a aimé et il a donné. Amen. Donc, si je comprends ça, en fait, j'ai juste d'abord. Ça dit parfois on prêche l'évangile, on dit aux gens il faut que tu fasses. Bien sûr, il y a des choses à faire, mais la première chose à faire, c'est recevoir. Tu es venu, ah, qu'est-ce que Dieu va me demander? Il y en a qui ont peur de s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me demander encore? Non! La première chose, tu reçois. Je reçois. C'est pour ça que si vous n'êtes pas habitué dans ce lieu, souvent on dit, je reçois. Parce que Dieu, il donne. C'est un donateur. Donc, en fait, tu reçois tout le temps avec Dieu. Bien sûr. Et en fait, parce que si tu n'as rien, tu ne peux pas être transformé. Mais quand tu reçois, c'est ce que tu reçois qui transforme ton cœur. Donc arrête de croire que tu vas avoir du mal à suivre Dieu parce que tu fonctionnes toujours dans un système méritoire. Mais quand tu fonctionnes dans un système qu'on appelle de grâce, tu apprends à recevoir de Dieu sa grâce, à recevoir de Dieu sa puissance, à recevoir de Dieu son amour, à recevoir de Dieu tellement de choses, et c'est ce que tu reçois qui va transformer ton cœur. Jésus n'est pas mort parce que tu es digne, il est mort parce que tu es aimé. Et comme tu es aimé, il va te rendre digne. J'aime regarder la beauté de ma femme. C'est quoi le rapport? Il n'y avait pas, j'avais envie de dire ça. Ah, je t'ai eu. Hein? J'ai encore une illustration sur sa femme. Non. J'avais envie de dire, voilà. Voilà. Jésus ne s'est pas sacrifié pour toi quand tu dis, ouais, ben là, je mérite le sacrifice. Jésus n'est pas sacrifié pour toi à ce moment-là. Jésus ne s'est pas sacrifié quand tu étais prêt ou prête. Il s'est sacrifié pour que tu sois prêt. Il s'est sacrifié pour te rendre prêt et prête. Et la croix ne récompense pas la sainteté. La croix te permet de devenir saint. Sainte. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'avais donné ma vie à Jésus, j'avais choqué les camarades de classe. J'ai dit, ils appelaient saints, des saints. Moi, je me dis, mais moi, je suis saint. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient choqués. Oh, quand même, tu prends pour qui il est saint. Mais la Bible dit que je suis saint. C'est ça la réalité. La Bible dit que j'ai été lavé par le sang de Jésus. C'est-à-dire que même toi, tu peux vivre cette réalité. Tu te regardes comme, peut-être comme Nicky Cruz à ce moment-là, tu dis mais c'est impossible ce que tu me dis là, mais j'ai fait ça. Et moi je te dis, reçois Jésus. Amen. Et si en tant que chrétien, tu es en train de te laisser vaincre par la culpabilité. Rappelle-toi, souviens-toi, Jésus a payé à ta place. C'est-à-dire, ce que tu devais n'existe plus. Comment tu peux payer? En fait, je crois que c'est en juridique, il y avait une loi, je ne sais pas si c'est en France, mais en tout cas aux États-Unis, je sais que c'est le cas. C'est dans un film que j'ai regardé ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai. Je vais vous dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé pour un procès qui a déjà eu lieu deux fois. C'est-à-dire que quand tu as fait le recours jusqu'au bout, que tu as été jugé, à la fin, tu es blanchi. Il y en a qui disent, si on retrouve d'autres choses contre moi. Non, on ne peut pas te juger deux fois pour la même affaire. Tu sais quoi, ton affaire de péché a été jugée. Amen. Dieu t'a déjà déclaré non coupable. Amen. Dieu a dit, tu es blanchi.
Je reçois.
Même moi, il a dit ça. Amen. Il a dit, Romaric, tu es blanchi.
Amen.
Donc, accepte juste la preuve ultime de Dieu, son amour pour toi. Le ciel a déjà payé un prix fort pour te gagner. Donc, tu ne dois pas juste accepter. En fait, et ceux qui connaissent mon message, vous le savez, le combat se situe juste là. Dans le ciel, il n'y a plus de combat. Jésus-Christ a remporté la victoire.
Amen.
Tu es déclaré, quand tu reçois Jésus-Christ, innocent, pur, lavé. Tu es déclaré même saint, sainte. C'est-à-dire que si tu veux être un peu provocateur, provocatrice, quand tu vas recevoir Jésus, tu as déjà reçu Jésus, tu vas à ton boulot, tu te mets avec une couronne. Et on va dire, mais qu'est-ce que c'est toi? Je suis sainte. Ça change. Et s'il y en a qui te critiquent, qui te disent, ouais, t'en passes, prends une couronne. La dernière preuve. Pourquoi je dis que Dieu nous aime et que Dieu t'aime? Premièrement, j'ai dit, Dieu t'aime avant que tu puisses même croire. Deuxièmement, j'ai dit, Dieu t'aime au point d'avoir donné son fils. Tu dois te souvenir de ça. Et la dernière preuve, je me suis dit, waouh, c'est fort. Mais Dieu s'est déjà engagé sans condition. J'en ai parlé en introduction, mais vous allez voir la profondeur de ça. C'est-à-dire que quand moi, j'écoute, je m'écoute moi-même avec tout ce que je viens de dire, j'ai envie de dire, il est où le problème? Tu ne m'as pas tout dit. Avant de signer, dis-moi tout. C'est quoi le piège? C'est quoi ce que je dois faire en retour? Ok, il m'aime le premier, il s'est engagé le premier. Ok, il a donné son fils. Ok, mais c'est quoi la condition? Bon, j'ai parlé des scientifiques, notre ami qui est là est scientifique, peut-être même juriste. On a un expert. Est-ce que tu as entendu parler des contrats synalagmatiques? Les contrats synalagmatiques. Le contrat de mariage est un contrat synalagmatique, c'est-à-dire un contrat de réciprocité. Tout contrat, quasiment tout contrat, 99% des contrats que nous connaissons, ce sont des contrats qu'on dit synalagmatiques. C'est-à-dire, je m'engage, mais toi en contrepartie, qu'est-ce que tu fais? Il y a toujours réciprocité. Et même des contrats certains contrats de donation. Ça, certains, parfois, ils refusent certains héritages. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous comprenez? Mais quand je découvre l'amour de Dieu tel que je l'ai présenté, Dieu me dit dans sa parole, ce n'est pas une alliance synalagmatique. C'est-à-dire, je ne te demande rien en retour, si ce n'est de recevoir. C'est pour ça que je dis sans condition. Et la Bible nous parle que c'est toujours lui qui est. C'est Dieu qui descend vers Abraham pour lui parler. C'est Dieu qui descend vers Israël pour le délivrer. C'est Dieu qui descend sur la montagne de Sinaï où il parle à son peuple. C'est Dieu qui descend sur la croix. En fait, la croix, écoute-moi bien. Quand je parle de salut, quand je parle d'être sauvé, ce n'est pas l'histoire de l'homme qui monte vers Dieu. Mais c'est l'histoire d'un Dieu qui est descendu vers toi et qui te demande juste de croire, d'accepter, rien d'autre. Rien d'autre. Fais preuve juste d'humilité ce matin. Alors je vais vers la fin. Je dis, c'est fini? Non, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas, mon message se finit. Tu t'attendais à se dire, ok, j'attends jusqu'à la dernière minute, qu'est-ce qu'il va me dire en retour? Non, je vais finir, je te promets, il n'y a rien d'autre. Mais ces trois points te conduisent juste à cette position spirituelle que tu dois prendre. Un, si tu n'as pas accepté Jésus, face à cet engagement de Dieu, est-ce que toi maintenant, en retour, tu es prêt et tu es prête à dire, je m'engage à te suivre et à faire confiance en ton amour? C'est ton amour qui me change, c'est ton amour qui me transforme, c'est ton amour qui fait de toi, qui fait de moi une nouvelle créature. Deux, si tu es chrétien, chrétienne, et que tu vis avec la culpabilité constamment, et avec un esprit de performance pour performer et montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est à partir d'aujourd'hui, juste dire, je reçois l'amour de Dieu, et je me rappelle que Jésus-Christ est mort, je me rappelle que je suis pardonné, je me rappelle que Dieu m'aime, point. Et peut-être que j'ai souffert et je souffre de du manque d'amour de mon père, de ma mère, de mes proches. Mais rien ne peut remplacer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une réalité, c'est tangible. Et une fois, le Seigneur m'a vraiment révélé, m'a dit, la plus forte onction, c'est l'amour. L'amour brise le joug, l'amour chasse les démons, l'amour va chasser le faux dans ton cœur. L'amour va purifier ton passé. L'amour va te libérer, l'amour va te délier les chaînes. Et tu as juste besoin ce matin de dire, mais et si je pouvais refléter un peu de ce Dieu? On est humain, mais avec l'Esprit de Dieu en nous, je peux marcher en déconnectant mon amour pour les autres avec ce que les autres ont fait. Et je parle à quelqu'un qui a du mal à pardonner et qui a un blocage dans sa relation avec Dieu ou dans sa relation avec les autres. L'ADN de Dieu, c'est possible que tu le reçoives, mais parce qu'en fait, tu l'as déjà reçu, c'est possible que tu l'actives, parce que Dieu nous a dit que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Tu as cet amour de Dieu qui n'est pas connecté aux circonstances, qui n'est pas connecté à ce que l'autre a fait. Tu as cet amour de Dieu qui te déconnecte de ton passé. Tu l'as en toi. C'est comme avoir une lumière, mais ne jamais appuyer sur la touche on. Tu as juste besoin aujourd'hui de dire, la lumière, elle est là. L'amour est là. Jésus est là. La vie est là. Tu as juste besoin. Oui, allez, si c'est ce que tu attendais, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, c'est ça. Es-tu capable d'appuyer sur l'interrupteur ce matin et de dire, j'active mon amour en recevant l'amour de Dieu. J'active la vie en recevant la vie de Dieu. J'active le pardon en recevant le pardon de Dieu. J'active la joie en recevant la joie de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? S'il vous plaît, je vais prier pour vous. Saint-Esprit.